Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 octobre 2021. Alors depuis quelques jours, je me posais beaucoup de questions en disant, je l'avais déjà montré dans ces vidéos, est-ce qu'on était en train de casser cette résistance? Est-ce qu'on était en train de faire un double top sur le S&P 500? C'était un peu la crainte du moment. C'est clair qu'on s'est beaucoup emballé ces derniers temps parce qu'on était très enthousiaste avec les chiffres du trimestre. Et puis depuis hier soir, clairement, la question ne se pose plus, ou la question elle est vite répondue, comme disait l'autre. On a cassé cette résistance définitivement. On est vraiment passé en dessus sur le S&P 500. C'est le bull market. Encore et encore. Et puis, du coup, on est en train de se dire, finalement, on a paniqué en septembre. On a eu un mois pourri au mois de septembre. Et ceux qui sont restés dedans et qui ont cru encore, finalement, ils se retrouvent fin octobre avec la période des crashs qui est en train d'arriver gentiment derrière nous, en se disant, on est au plus haut de tous les temps. C'est des records sur records. La techno s'envole à nouveau dans différents secteurs. Tout va bien, c'est formidable et tous les problèmes sont oubliés, en tout cas pour le moment. Alors la thématique d'hier soir, after close, en tout cas il y avait une thématique pendant la séance, j'y reviendrai tout à l'heure, mais after close c'était les résultats de Facebook. Les résultats de Facebook étaient donc excellents, étaient solides, on va dire, par rapport à tout ce qui se prennent dans la gueule depuis quelques temps, on est d'accord. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour Zuckerberg, on a de la peine pour lui parce qu'il a beaucoup moins de milliards sur le compte et on sait que c'est pas facile de vivre dans ces conditions absolument terribles. Mais c'est vrai qu'en fait, la thématique aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte, c'est qu'il y a Apple qui a changé ses règles de privacy, et donc qui sont un peu plus compliquées, qui sont moins faciles d'utilisation pour les réseaux sociaux. On l'a vu sur les résultats de Snap l'autre jour. Aujourd'hui, on le voit encore sur les chiffres de Facebook. Mais Facebook est moins impacté. La question qu'on va devoir régler, c'est comment ça se passe pour Twitter qui publieront ce soir After Close. Donc, en gros, les chiffres de Facebook étaient solides. Hier soir, After Close, le titre montrait de 1,2%. Donc, c'est pas l'euphorie, mais on a l'impression que le pire est derrière, en tout cas pour l'instant. Les lanceurs d'alerte sont partout sur les plateaux télé. Francis Hogan, elle est partout. Alors, ces gens-là, c'est extraordinaire. Ils sont passés d'employés de Facebook à spécialiste demi-dieu des réseaux sociaux, donc ils en savent mieux plus que tout le monde, donc ils sont en train de balancer dans tous les sens, mais pour l'instant on a l'impression que beaucoup de choses sont déjà pricées et le titre se comporte relativement bien sur les niveaux où il se trouve aujourd'hui, comme on le voit sur le graphique à l'instant. Maintenant, après, c'est clair que l'autre thématique des réseaux sociaux qui est assez rigolo, c'est que finalement tout le monde est en train de vomir dessus, c'est pas tellement populaire, on est très négatif, on pense que c'est pas bien, c'est mal. Mais après tout, ce qui est assez rigolo, c'est que le pouvoir qu'on aurait, nous, ce serait simplement de se barrer des réseaux sociaux, de déconnecter nos profils et de se tirer de ces histoires-là. Mais on le fait pas parce qu'on a quand même besoin de mettre nos photos de vacances dessus, de mettre ce qu'on bouffe, de mettre nos photos de nous-mêmes, de flatter nos égos surdimensionnés et de continuer dans cette histoire-là. Donc pour l'instant, ça continue à alimenter le compte en banque de Mark Zuckerberg. Donc ça ne change pas grand-chose à la fin. Mais ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que pour l'instant, ça va moins pire. Les résultats étaient encore une fois très bons. On continue à faire de la pub sur Facebook parce qu'on y retourne quand même. Et puis, on a quand même des trucs à raconter. Regardez-moi. L'autre sujet du jour, je sais plus comment aborder ce sujet-là parce que vous savez tous que je déteste ce sujet-là. Mais bon, bref. Tesla a explosé de 12% hier soir. Parce que Hertz, vous savez, Hertz, le loueur de voitures qui était en faillite il y a encore 2 mois. Donc Hertz est sorti de faillite et le premier truc que Hertz a trouvé à faire, c'est d'acheter 100 000 Tesla. Ils ont passé un ordre pour acheter 100 000 Tesla. Valeur 4,2 milliards de dollars. Donc du coup, évidemment, mécaniquement, le titre, bam, 12% de hausse hier soir, plus haut de tous les temps, on a cassé les 1000 dollars. La valorisation de Tesla est donc passée officiellement au-dessus des 1000 milliards de dollars. C'est génial, c'est formidable. Donc maintenant, quand vous irez louer une voiture, vous aurez la joie d'aller attendre au superchargeur que tout le monde ait fini de faire le plein, pour autant qu'il n'y ait pas trop de monde. Enfin bref, ceci est une autre histoire. Moi, je me réjouis de voir dans 3 ans, quand on aura une pénurie d'électricité en Suisse, comme l'a annoncé Monsieur Guy Parmelin, je me réjouis de voir comment on va faire pour aller charger nos Tesla à ce moment-là. Enfin, je dis non, pas la mienne, parce que moi, le jour où j'en ai une, ce sera déjà un miracle. Mais bref, ceci mis à part, ce qu'il faut aborder quand même, c'est le sujet des valorisations. Donc aujourd'hui, d'abord, Tesla vaut 1000 milliards de dollars. Et de l'autre côté, monsieur Elon Musk, lui, il a gagné 36 milliards juste hier soir. 36 milliards de dollars de plus juste hier soir. Donc aujourd'hui, pour vous donner un petit ordre d'idée, la valeur personnelle de monsieur Elon Musk représente la valeur totale d'Exxon. Exxon, la compagnie pétrolière, qui eux vendent de l'essence pour les voitures qui sont pas électriques. Donc voilà, grosso modo, une marque de voitures qui vend 1 million de voitures par année, eh bien, elle vaut 1 000 milliards de dollars. Alors moi, comme personne n'en parle, j'ai quand même juste ramené 2-3 choses un peu à la réalité. Alors j'ai pris 2-3 chiffres avec moi. Si aujourd'hui on regarde la capitalisation de Volkswagen, qui représente quand même Volkswagen, Audi, Skoda et Porsche, ça représente 126 milliards de dollars. Si on regarde la capitalisation boursière de BMW, qui représente BMW et Mini, ça vaut 57 milliards. Daimler vaut 87 milliards de dollars. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voyez le plus sur la route aujourd'hui? Parce que moi, j'ai fait un peu de route hier et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus d'autres voitures que de Tesla sur la route. Bref, pour ceci dit, c'est une autre histoire. On peut regarder encore autre chose, les PE, le price earning. Comment est-ce qu'on valorise une société par rapport à ses résultats et par rapport à son prix? Aujourd'hui, le price earning de Tesla, sans rentrer dans les détails de ce qu'est un price earning, aujourd'hui, le price earning de Tesla est de 300. Et puis le price earning de Volkswagen, il est de 7. Autrement, donc aujourd'hui, la thématique du jour continue encore et encore dans les résultats trimestriels. Alors déjà ce matin en Suisse, on a déjà eu UBS qui a publié, hier soir Logitech qui a publié et Novartis qui a publié. Globalement, UBS, les chiffres étaient bons, voire très bons. En tout cas, quand on lit un peu ce que les médias rapportent ce matin, c'est que des nouvelles positives pour UBS. Explosion du wealth management, masse sous gestion qui augmente, tout va bien. Ils vont annoncer un changement de stratégie au mois de février. Mais enfin, pour l'instant, tout est en cours, tout rigole, tout se passe bien. Au niveau de l'UBS, les chiffres étaient bons, le trimestre était bon. Novartis, on va dire que c'était coup-ci, coup-ça, c'était un petit peu bof-bof, c'est dans les attentes, mais il n'y a pas de quoi s'exciter non plus. C'est pas extraordinaire. Mais ça va. En même temps, vu où elle se traite aujourd'hui, on imagine assez mal comment ça pourrait être pire. Et puis, pour terminer, Logitech s'est fait défoncer depuis quelques mois parce que tout le monde l'a downgradé, tout le monde l'a révisé à la baisse, tout le monde a dit qu'il y aura un ralentissement. Et hier soir, vous savez quoi? Ils ont annoncé que le dernier trimestre, il y avait un ralentissement. Donc, pour une fois, félicitations, les analystes étaient justes, ils avaient correctement anticipé. Et donc maintenant la question c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les prix, que va faire Logitech? Alors après l'annonce des chiffres hier soir, le titre remontait de 1,2%. Maintenant, il faudra voir la réaction des Zurichois aujourd'hui sur la bourse suisse. Et puis autrement, aux États-Unis, cet après-midi, on aura quelques grands noms, on va dire des classiques avec des UPS, avec des GE, avec des Lockheed Martin. Enfin, tous les titres que tout le monde s'en fout globalement parce que même quoi qu'il fasse, ça va pas changer la face du monde. Par contre, ce soir, after close, on aura la tech qui commence à arriver pour de vrai puisqu'on aura Google, on aura Microsoft et on aura Twitter. Alors Twitter, ce qu'il faudra surtout regarder, c'est de nouveau cette histoire de privacy par rapport à Apple. Et en fonction de ce qu'ils nous annoncent, eh bien, on pourra se poser des questions sur la suite des événements au niveau de la tech. Mais en tout cas, on devrait avoir des bons chiffres chez Microsoft, des bons chiffres chez Google, parce que de toute façon, comme d'habitude, chez Google, personne n'arrive à les comprendre ou les interpréter. À noter encore qu'il y aura Robinhood, la boîte de cinglés qui traite comme des fous avec zéro commission, et puis Texas Instruments. Donc voilà, maintenant, on est vraiment parti dans les chiffres de la tech. Ça va continuer comme ça toute la semaine. En tout cas, ce soir, il y aura du monde. Cet après-midi, il y aura du monde. Pour l'instant, les futurs sont déjà orientés à la hausse, donc ça continue d'aller plus ou moins bien. Et quand on regarde ce qu'on voit jusqu'à maintenant, il devrait y avoir plutôt des bonnes surprises encore ce soir et cet après-midi. On retiendra encore que dans les 2 semaines qui viennent, à peu près 250 sociétés du S&P 500, donc plus de la moitié du S&P 500, va publier ses chiffres trimestriels. Pour l'instant, là où on en est dans la saison, on n'est vraiment qu'au début, puisque c'est vraiment la première grosse semaine qu'on a au niveau des chiffres. Eh bien, pour l'instant, 85% des sociétés qui ont publié sont au-dessus des attentes du marché, ce qui est nettement en-dessus de la moyenne historique des 5 dernières années, qui se situe à 76%. Alors moi, je trouve génial, je savais même pas qu'ils faisaient des statistiques pour aller aussi loin. Alors ils font des statistiques pour voir sur les 5 dernières années comment est-ce qu'on s'est comporté dans les publications de résultats, et puis finalement à la fin on a une vision à 2 heures. Enfin bref, en tout cas on sait qu'aujourd'hui c'est mieux qu'il y a 5 ans, c'est mieux qu'il y a 2 ans. On est vraiment super force qui continue dans la bonne direction. Après, de l'autre côté, on peut aussi compter sur le fait que la Chine va toujours mal, parce qu'il y a encore des articles dans la presse ce matin qui disent que au niveau de l'énergie crunch, ça s'améliore pas. Ils savent pas comment ils vont pouvoir faire pour compenser la situation dans laquelle ils sont. Le ralentissement économique, il n'y a pas de signe de redémarrage pour l'instant en Chine. Il y a toujours des foyers au niveau Covid en Chine. Donc ça reste un problème. Evergrande, ça va quand même finir par nous péter la figure. Ça faut quand même s'y attendre, un de ces quatre. Et puis, l'inflation est toujours là. Le pétrole est toujours à $83. C'est toujours aussi cher de faire le plein d'essence. Donc, par rapport à ça, il y a encore des risques qui sont bien présents et qui risquent de nous retomber dessus. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur les chiffres du trimestre qui sont juste exceptionnels. Et Tesla qui vend des voitures comme des petits pains. Les petits pains que je vais d'ailleurs devoir aller acheter maintenant tout de suite. Côté crypto, Brièvement, ça continue à aller plutôt pas mal. Le Bitcoin consolide parce qu'après son record de la semaine dernière avec l'émission de l'ETF BITO, il est revenu sur les 60 000. On l'a vu plusieurs fois, il a testé les 60 000 pour essayer de casser et retourner à la baisse. À chaque fois qu'il est revenu sur les 60 000, on a vu beaucoup d'acheteurs qui sont venus massivement acheter du Bitcoin à 60 000 dollars. Donc on peut dire que pour l'instant, il y a un support technique assez intéressant à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a l'Ether aussi qui est en train de tester ses plus hauts historiques dans la zone des 4200-4300. Donc dans cette zone-là, il continue à grimper un petit peu tous les jours. Si on arrive à passer des 4300 dollars sur l'Ether, eh bien il y a de fortes chances que ce soit un breakout aussi important au niveau historique, au niveau de la blockchain. Après, on pourra reparler de l'Ether à 40 000 et puis du Bitcoin à 100 000 d'ici Noël. Parce que je rappelle quand même que Noël se rapproche et qu'on doit aller à 100 000 d'ici Noël. Je termine avec la question du jour que je vous lis. J'ai acheté des actions Cassiopeia, Skin, symbole Skin, juste avant leur fusion avec Cosmo Pharmaceutical, symbole COPN, suite à quoi le titre est forcément descendu. Le deal qu'ils proposent est d'échanger une Skin pour 0,467 COPN. Dans mon cas, cette proposition revient à perdre 8%. Que se passe-t-il si je la refuse? D'autre part, il y a plus ou moins 15 jours avant le terme de cette proposition, y a-t-il un espoir d'amenuiser ma perte? Alors quand il y a des takeovers, des fusions comme ça, où ça se fait par échange d'actions, eh bien c'est toujours assez délicat parce que c'est vrai que les gens ne sont pas systématiquement satisfaits. Le seul problème, c'est que pour qu'une OPA comme ça ou qu'une fusion se fasse, il faut la majorité des actionnaires. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas parce que vous perdez 8% à ce moment-là, vous pouvez refuser, effectivement. Vous pouvez refuser la fusion et espérer que la majorité des actionnaires de Skin sont avec vous derrière. Si c'est pas le cas, ça va être problématique parce que de toute façon, une fois que les actionnaires ont voté, vous n'avez pas d'autre choix que de convertir vos actions. Donc si vous êtes minoritaire, vous avez perdu vos 8%, vous ne pouvez rien faire de plus. Et si vous êtes majoritaire, bah, ça reviendra à normal. Puis après, ce sera la vie normale de la société jusqu'au prochain takeover ou jusqu'à une offre plus intéressante. Donc pour l'instant, c'est impossible de vous dire si vous avez une chance de récupérer votre argent. La seule chance possible aujourd'hui, c'est de dire que la fusion est peut-être une bonne nouvelle. Je connais pas suffisamment les sociétés pour donner une opinion là-dessus. Mais si la fusion est positive pour les deux sociétés à terme, une fois que la fusion sera faite, eh bien vous serez actionnaire de Cosmo. Et Cosmo, s'il se redéveloppe correctement, là où ils sont, il y a un joli potentiel de rebond, en tout cas technique. Si les choses vont dans la bonne direction, vous pourrez récupérer vos 8% sur le long terme. Maintenant, dans les 15 jours qui viennent, vous allez devoir prendre une décision. Donc soit vous refusez et puis vous espérez que les 51% des actionnaires vous suivent derrière, soit vous acceptez et puis vous espérez que ça va rebondir derrière, soit vous vendez, vous coupez, vous prenez la perte. C'est un peu les trois choix qui vous offrent à vous, mais malheureusement, en général, dans cette phase de fusion, à moins qu'il y ait un chevalier blanc, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui vienne pour racheter Cassiopeia, entre deux, il y a peu de chances que quelque chose d'autre se passe. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce genre de situation, mais malheureusement, quand on est un petit actionnaire dans ce genre de situation, eh bien, on n'a qu'à subir le mouvement et surfer la vague avec le reste des gens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. Et puis, ben, moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour une nouvelle vidéo touristique avec une vue différente de celle-là. Je vais essayer de trouver un autre coin dans la région. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve demain. Bye bye.